Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia.
C'est l'heure des grands débats du matin sur Sud Radio à 9h-10. On continue à décrypter le programme d'Emmanuel Macron avec nos éditorialistes Thierry Guerrier, Philippe Bilger et Frédéric Dabi. J'en profite pour rappeler quand même à nos auditeurs, hein, et vous, que pensez-vous de ce programme pour les présidentielles? À droite, à gauche, c'est la continuité, trop dépensier, à 57% vous votez, franchement, ça change pas grand-chose, c'est la continuité.
La continuité dans le changement, ou le changement dans la continuité.
C'est ça. Hein, et trop dépensier aussi à 23%.
Ouais, avec Philippe Bilger. Philippe, vous êtes un spécialiste en fait de l'expression en fait orale. Hein.
J'essaye en tout cas.
Mais oui. Non, mais bien sûr. Vous avez un institut, hein, donc voilà. Parlons-en directement. Comment vous l'avez trouvé sur la forme? Là, on ne va pas juger le fond, mais sur la forme, Emmanuel Macron.
Je trouve que Emmanuel Macron n'a jamais été un tribun, mais il est assez doué lorsque il a le champ libre devant lui, et notamment dans les dialogues avec les journalistes, même si hier le dialogue a été relativement résiduel et très déférent. Il n'est pas mauvais dans cet exercice, mais avec le défaut que j'espère ne pas avoir ce matin, mon cher Patrick, oui, c'est qu'il est toujours trop long. Est toujours trop long. Et je l'ai remarqué même dans des cérémonies totalement émouvantes. Parfois, dans un seul discours, il en fait deux. Il redonde, il surabonde, parce qu'il est tellement persuadé de devoir convaincre qu'il en rajoute. Mais ça n'est jamais médiocre, entendons-nous, tout de même.
Mais du coup, ça perd de son efficacité, quoi, aussi. Thierry
Guerrier. Oui, c'est clair.
Ouais, Thierry Guerrier.
Moi, je pense que, bonjour Philippe, qu'il a choisi délibérément de faire rasoir, passez-moi l'expression, pour faire candidat d'abord, pour montrer qu'il a bossé, pour passer presque 4 heures à défendre son programme, ce que les autres n'ont pas fait. Je crois que c'est volontaire, c'est délibéré. Il pense que les Français vont choisir en fonction de l'événement. L'événement, c'est la guerre et c'est la pandémie. Et qu'en fonction de ça, ils ne voudront pas changer de capitaine. Donc, ils préfèrent faire rasoir, mais au moins, c'est béton, c'est du Macron.
Enfin, c'est du béton. C'est béton. Alors, depuis ce matin, 7 heures, on a.
Est-ce que c'est comme ça que les gens vont choisir?
Oui, c'est ça. Depuis ce matin, 7h, nous avons eu beaucoup de réactions, que ce soit en fait des enseignants, de l'avocat fiscaliste, du spécialiste en fait de l'emploi, du directeur des établissements des personnes âgées, et tous sont unanimes pour dire que ce ne sont mesurettes, sinon des choses qui existent en fait déjà.
La et continuité.
Il n'y a rien de révolutionnaire, absolument. C'est son pari, c'est pas le bon.
Ça nous amène aussi à l'enquête de Frédéric Dabi, en fait, à l'IFOP. On parlera tout à l'heure d'ailleurs aussi des sondages et puis du Rolling. Hein, le Rolling, c'est ce sondage en temps réel, mon cher Frédéric Dabi. Les traits d'image comparés d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, vous avez mené une enquête. Qu'est-ce que ça nous donne alors?
Oui, alors c'est une enquête qui avait déjà été menée pour le JDD Sud Radio entre les deux tours en 2017. On voit très bien que 5 ans se sont passés, que d'un côté, Emmanuel Macron, crise ukrainienne oblige, président des crises, capitalise sur les atouts du sortant. Ouais. Il surclasse Marine Le Pen sur la stature d'un président de la République, qui elle-même chute par rapport à 2017, hein, l'effet du débat entre deux tours. Il la dépasse sur la capacité à défendre les intérêts de la France, à mettre fin à la crise en Ukraine. On voit comment, pour la première fois à l'international, sculpte une campagne présidentielle et amplifie la logique de distinction pour le président sortant. Mais il y a des questions intérieures. On voit que sur le terrorisme, on voit que sur la capacité à améliorer le pouvoir d'achat, qui est le sujet qui structure la campagne, qui est très légèrement éclipsé par la crise ukrainienne, mais que dans nos enquêtes, les Français nous parlent maintenant régulièrement d'inflation, de relégation, parce qu'ils ne peuvent plus bouger, ou moins bouger, certains, dans les zones rurales, du fait de la crise des carburants. Sur le pouvoir d'achat, ils sont quasiment à égalité. Et Marine Le Pen, Patrick, l'emporte sur une dimension, la connaissance de la vie quotidienne et des préoccupations des Français. Et je fais le lien avec ce qu'a dit Thierry Guerrier.
Très nettement.
Encore plus nettement qu'en 2017. C'est vrai que le soupçon, la critique d'arrogance à l'égard du président s'est beaucoup étiolé avec le Covid, où beaucoup de Français disent « il s'est quand même occupé de nous », avec cet effet drapeau, cet effet union nationale sur la crise en Ukraine. Pour autant, il apparaît toujours comme quelqu'un qui ne connaît pas assez le pays. Et quand on voit les critiques hier sur son discours, où c'est vrai, comme le dit Thierry, il a été extrêmement classique. Il a fait plus que des candidats sortants se représentant. François Mitterrand, un simple mode épistolaire, sa belle lettre aux Français sur le style, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, des simples engagements, il a voulu réapparaître parce qu'on le soupçonne de ne pas faire campagne comme un candidat classique. Maintenant, on voit très bien que, certes, Marine Le Pen a perdu du terrain sur la stature, elle est en difficulté sur les questions internationales comme tous les candidats, mais sur les questions de politique intérieure, elle est nettement mieux placée qu'en 2017, et on le voit dans nos rapports de force de second tour. Bien sûr, il faut être extrêmement prudent, parce qu'on sait qu'un second tour avant un premier tour ne vaut pas grand-chose, mais c'est celle qui résiste le mieux à Emmanuel Macron. Au début du rolling, c'était Valérie Pécresse, on était sur des rapports de force assez serré de 53-47. Maintenant, Emmanuel Macron dépasse 60-62, 63 systématiquement face à Pécresse, Mélenchon, Zemmour. Face à Marine Le Pen, il l'emporte, mais sans la surclasser.
Oui, bon. Je voudrais bien qu'on dise un mot, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais comme on en profite puisque vous êtes là, Frédéric Dabi, on continuera le débat aussi tout à l'heure, sur les plus petits candidats, qui restent finalement toujours un peu au même niveau, 0,5, 0. Est-ce qu'ils sont entendus ? Nathalie Arthaud, elle est quand même entendue ou pas ?
C'est quelqu'un qui a un espace politique. Hein. Il y a une candidature à lutte ouvrière depuis 1974 avec Arlette Laguiller d'ailleurs, depuis maintenant 2012, Nathalie Arthaud, elle est dans notre ligne entre 0,5 et 1%. Ça montre que c'est intéressant le vote Laguiller, le vote Poutou, le vote Lassalle, ce sont des gens dont les Français savent qu'ils ne gagneront pas l'élection, mais les Français ne sont pas tous sur un vote utile. Un vote efficace, il y a un vote de conviction, il y a un vote aiguillon, il y a un vote signal, et ce n'est pas ridicule.
C'est une forme de cote de sympathie, par exemple, pour Philippe Poutou. Comment vous l'expliquez ?
C'est quelqu'un qui génère une sympathie dans les milieux populaires. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté intermittent. Il disparaît quasiment pendant 5 ans, même si il a été élu au conseil municipal de Bordeaux aux élections municipales de 2020. Mmh. C'est vrai que, pareil, Alain Krivine vient de disparaître. C'est aussi un courant. Ça fait partie de l'exception française. Hein, 2 candidats trotskistes, il y en avait même 3, je crois, en 2002, avec Besancenot, Laguiller, Daniel Gluckstein.
Pierre Boussel-Lambert.
Il y a eu Pierre Boussel en 1988. Ça fait partie, je dirais pas des bizarreries, parce que ça serait assez méprisant, mais des exceptions françaises. Alors, il y a des candidats qui ont peut-être des petits scores, mais qui réussissent quelque chose. Jean Lassalle, dans notre ligne, il fait 2 fois plus que son score réel de 2017.
Et Nicolas Dupont-Aignan.
C'est très différent parce que là, il n'est pas sur une dynamique. Il avait fait 3,5 en 2012, 4,8, quasiment 5 en 2017. Là, il a son espace. Il y a une question, Patrick, d'espace. Ouais. Il est complètement mangé son espace par Marine Le Pen, Éric Zemmour. Quelles sont les motivations pour voter aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan ? Alors, il est sur un créneau, toujours la crise sanitaire, mais qui est moins audible par les Français. Autre candidat, petit candidat qui réussit quelque chose, Fabien Roussel, 4,5, 5 dans notre rolling. C'est tout simplement presque 2,5, 3 fois le score de la dernière candidate communiste, Marie-Georges Buffet, en 2007.
Et il y en a, on attendait après avoir, entre guillemets, fait le ménage chez lui, c'est-à-dire Yannick Jadot, par rapport à Sandrine Rousseau, qu'il allait éventuellement peut-être décoller, en tout cas se libérer, et finalement alors,
il est entre 5 et 6 5 et 5,5 dans notre enquête quotidienne. Vous savez, une élection présidentielle, c'est pas une élection européenne, où c'est un vote de marque, c'est un vote d'adhésion partisane. Les Français, notamment les jeunes, font l'équation climat égale Europe écologie les Verts. C'est marqué dessus, si je puis dire. Là, la présidentielle, c'est une incarnation. Yannick Jadot n'était pas connu de tous les Français. Là, il fait un travail de notoriété assez forte. Je trouve qu'il a bien fait de, entre guillemets, mettre de côté Sandrine Rousseau, qui la gênait, qui prenait l'espace, qui peut-être lui sabotait, volontairement ou pas, c'est pas moi de le dire, sa campagne, parce que la présidentielle, c'est d'abord une incarnation. C'est d'abord la rencontre du pays avec un ou une candidate, et c'est vrai que Yannick Jadot a besoin de faire ce travail. N'oublions pas, le candidat écolo qui a fait le meilleur score dans l'histoire de l'élection présidentielle, c'est Noël Mamère, qui avait fait 5,3. Il était en 2002. Il était ultra connu.
Bien
il incarnait.
Sûr, aussi à la télé.
Merci. On va pouvoir commenter tout ça justement aussi dans un instant. Puis on reviendra avec Éric Revel aussi un peu sur les oubliés de la conférence de presse hier d'Emmanuel Macron. Je pense notamment au TPE et puis il y en a d'autres.
Et puis n'oubliez pas, vous nous appelez au 0826-300-300 Sud Radio 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h. Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022.
Et 9h06, Revel en campagne avec Éric Revel. Bonjour Éric.
Bonjour Laurence, bonjour Patrick.
Bonjour Éric. Alors, le programme d'Emmanuel Macron. Alors, pour un second mandat, on l'a compris, la philosophie est plutôt libérale. Et Macron qui promet, s'il est réélu, d'être plus près et plus à l'écoute des Français.
Oui, oui, ça vous a sans doute marqué, j'imagine, tous les deux. Hein. Bon, alors le programme, quand même, il faut en dire un petit mot avant, un coût 50 milliards d'euros, bon. Un programme, vous l'avez dit sur Sud ce matin, plutôt dans la continuité, 4 heures de face à face avec la presse. Bon, les verbes les plus utilisés, protéger, émanciper, transmettre, hein, je reprends les verbes du président candidat Macron hier. Un programme avec des mesures proposées d'ailleurs, hein, qui sont pas vraiment nouvelles, qui ressemblent parfois furieusement, ils ont raison de le souligner chez LR, hein, celle de Valérie Pécresse. Un programme, donc, vous l'avez dit, plutôt, oui, libéral, et bien loin, en tout cas, de la révolution que Macron promettait en 2017 dans un livre presque resté célèbre, le président de la Startup Nation. Oui, 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 il veut faire amende honorable. Il veut faire maintenant société avec les Français. Jupiter promet d'atterrir sur Terre pour son éventuel second mandat.
Mais il n'y a pas de proposition disruptive, alors ?
Bah, il y a beaucoup de continuité, hein, ouais, dans c'est... le sens où le « en même temps », le fameux « en même temps » est toujours le fil rouge de la pensée, donc du projet Macron 2. Projet libéral donc, mais en même temps socialisant et qui regarde un peu à gauche parce que c'est passé totalement inaperçu. Mais Macron a annoncé sa volonté, par exemple, de nationaliser EDF. Oui, oui, nationaliser EDF, c'est-à-dire bon, de racheter les 16% du capital de l'électricien qui appartiennent aux privés et qui sont cotés en bourse. Nationaliser EDF, Macron l'a dit hier. Il promet un exercice du pouvoir donc moins vertical, une démocratie participative. Ça vous dit quelque chose ? C'est un concept qui avait fait naître Ségolène Royal. Et peut-être aussi un ministère des citoyens. Il promet de s'intéresser aux petits et de ne plus seulement louer et valoriser ceux qui réussissent, c'est ce qu'il a dit.
Oui, bon, s'intéresser aux petits, à ceux qui ne sont rien, pour reprendre sa fameuse formule incroyable de 2017, hein, c'est ça. Bon, on verra. Dans son programme, est-ce qu'il propose quelque chose pour les TPE, les toutes petites entreprises ?
Eh ben, si on parle des petits et des petites entreprises, les TPE, donc, bah non, elles n'ont pas vraiment voix au chapitre dans le programme de Macron 2, hein, 23 jours de l'élection présidentielle. Les 6 millions de TPE de moins de 10 salariés, les boulangers, les artisans, les coiffeurs, les commerces de proximité, bah, visiblement, ne sont pas dans le viseur du projet économique du candidat président Macron. Alors, un raté ou le symbole d'un président qui ne voit l'avenir de la France que dans les start-up. Eh bien, je vais terminer comme ça, Patrick. C'est peut-être les deux en même temps.
Bon, voilà. C'est. Bon, je crois qu'on a déjà dit, en fait, beaucoup de choses. Sur le fond, Philippe Bidger, parce que vous êtes employé tout à l'heure à parler, en fait, de la forme. Sur le fond, vous, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué ou que vous avez notées ou pas ?
Juste une chose, Patrick, si vous me permettez une seconde de revenir en arrière sur les petits candidats.
Oui.
Artaud, Poutou, ces gens-là font partie des meubles démocratiques, mais ils ne sont pas écoutés parce que leur discours est inchangé d'une élection à l'autre. Je veux dire, ils sont éminemment prévisibles. Mais pour le président de la République, j'ai trouvé que manquait, mais peut-être ai-je commis une erreur, des séquences fortes sur le régalien et l'immigration.
Ouais.
Il ne les a pas réellement traités, comme s'il préférait ne pas aborder, au fond, de mon point de vue, le manque radical de son quinquennat, qui est la faiblesse sur le plan régalien. Pour le reste, j'ai trouvé que, évidemment, le président a été d'autant plus long qu'il ne parvenait pas à convaincre du renouvellement du fond. Quand on est trop long, c'est qu'on a du mal précisément à montrer en quoi le fonds qu'on développe est capital. Et c'est peut-être là la grande faiblesse de la candidature d'Emmanuel Macron, mais qui ne garantit pas qu'il ne sera pas réélu, c'est le fait qu'il a beaucoup de mal, me semble-t-il, à démontrer pourquoi il a besoin de revenir durant 5 ans. Ou alors uniquement en disant « il faut que j'accomplisse ce que je n'ai pas eu le temps de faire ou que je n'ai pas voulu ou pas pu faire
».
Donc c'est une faiblesse assez fondamentale et il a égrené un certain nombre de mesures. mais il a pu tomber sous le reproche qu'on a fait à d'autres candidats un défaut de vision.
Oui. Mais Thierry Guerrier, tout à l'heure, dans votre édito, vous disiez que c'était quasiment volontaire faire cet exercice un peu comme s'il était professeur, en fait, au tableau et très techno.
Je crois qu'Emmanuel Macron fait un pari. Il parie sur le fait que les Français ne veulent pas changer de capitaine dans la tempête, mais qu'ils veulent, au fond, l'expérience et la compétence. Mmh. Et donc, sa démonstration en creux hier, c'était, vous voyez, je connais les dossiers, je vais poursuivre, il n'y a pas de grande révolution, je vais choisir quelques aspects, très bien, Philippe a raison, il n'y a rien de révolutionnaire. Et l'idée, c'est, au fond, je suis quelques coudées au-dessus de tous les autres. Donc, le choix par défaut d'un Emmanuel Macron, alors, ça peut être très dangereux, comme ça peut aussi marcher, compte tenu de ce qui se passe, de la gravité de l'événement. C'est ça, je crois.
Maintenant qu'il a mis les choses sur la table, est-ce que ses adversaires peuvent l'attaquer plus facilement, entre guillemets?
Il y a trois semaines. C'est assez bien. Non, mais alors, je vais vous dire, c'est assez bien vu parce qu'il avait dit qu'il était le maître des horloges en se déclarant très tard candidat, en annonçant finalement, on est quoi, à 23 jours maintenant de l'élection présidentielle du premier tour, son programme. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il met sur la table ses propositions et il va forcer, ce qui a déjà commencé, tous les autres candidats à se prononcer sur les mesures que lui impose dans le débat. Donc c'est ça qui est assez fort dans cette séquence. C'est qu'en fait, maintenant, les autres ont exposé leur thème. Vous vous souvenez d'Éric Zemmour qui a surfé sur la question de l'immigration. Il avait imposé ses thèmes. Aujourd'hui, en fin de campagne, c'est le président candidat sortant qui, grâce à ce programme un peu long, c'est vrai, Philippe a raison, il va imposer ses thèmes. Il impose ses thèmes, il les met sur la table et il va obliger tous les candidats qui sont pas très loin derrière lui, à se positionner par rapport au thème que lui met sur la table aujourd'hui. S'appelle de la stratégie politique ou politicienne, comme vous voudrez.
Sauf que, pardonnez-moi quand même un peu Eric, mais sur différents thèmes là, ils avaient déjà été exposés et mis sur la table, autour des retraites.
Oui, mais sauf que maintenant le candidat Macron, etc., comme dit Eric, là,
mais en revanche,
on fait l'alpha et l'oméga du débat.
En revanche, ils peuvent l'attaquer sur les questions liées à l'insécurité, à l'immigration, où là, en revanche,
tout le jeu de passe-passe consiste à imposer des thèmes qui sont plutôt des thèmes de société et économique. Mais Philippe a raison, les thèmes régaliens sur l'incarnation, les thèmes de l'immigration qui ont hanté ce début de campagne, ils sont totalement absents. Et comme il arrive et qu'il est le favori, le président candidat, c'est lui qui va imposer ces thèmes. Ouais. Et même si les Français veulent entendre des positions sur l'immigration ou sur le régalien, en réalité, il les balaye d'un revers de main en les mettant pas sur la table. Les autres candidats vont avoir du mal à se positionner sur des thèmes qui n'existent pas, qui ne sont pas dans le programme du président candidat.
Il y a beaucoup de réactions et d'appels.
0826 300 300.
Standard de Sud Radio, et c'est Pierre qui nous appelle de Montège. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Alors, moi, c'était pour parler de la retraite à 65 ans.
Allez-y.
Vous savez, quand vous avez travaillé dans le bâtiment ou dans tous ces métiers difficiles, plombier, mécanicien, et qu'il faille partir à 65 ans, je pense que c'est très difficile, vous voyez. Et quand vous avez à 60 ans, quand vous devez monter sur des échafaudages avec des parpaings, des seaux et monter les murs, c'est dur.
Et même sans monter, en fait, parce que souvent on prend cet exemple qui est un peu caricatural, mais vous avez raison Pierre, faire par exemple de la peinture ou en fait la manutention exercices. Moi, je connais en fait beaucoup de gens qui travaillent en fait dans l'administration, qui au bout d'un certain temps, parce qu'ils tapent toujours sur un ordinateur, etc., ils ont énormément d'arthrose. C'est vrai, ça peut sembler un peu ridicule, on se dit c'est quand même moins pénible que d'autres, sauf que ça l'est, et qu'il y a énormément de gens qui sont concernés.
Alors, oui, comme les chauffeurs routiers, etc., mais ce que je dis, vous savez, quand vous avez commencé de bonne heure, quand vous avez toutes vos annuités, on devrait partir à 60 ans, point final. Quand on ne les a pas, on continue jusqu'à ce qu'on ne les ait pas. Ouais. Mais partir déjà à 62 ans, quand on a dit tout ça, et vous savez, c'est difficile. Et si on veut partir à 60 ans avec les annuités, nous avons une décote. Ça, ce n'est pas normal. Et quant à dire changer le nom de Pôle emploi, la France au travail, il faudrait que M. Macron sache que les Français travaillent déjà, vous voyez. Alors, France au travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous ne travaillez pas, mais moi je vais vous mettre au travail, alors je vais faire la France au travail. Bon. Non, mais c'est ridicule et c'est lamentable.
Bon, et je vous conseille de réécouter la chronique de Jérôme Laverny hein, sur ce sujet qui était notre invité tout à l'heure. Merci Pierre. Et merci, alors, Pierre. Si vous voulez réagir sur les retraites, sur justement le fait qu'il n'ait pas parlé, par exemple, d'immigration ou d'insécurité, bah, moi je vous invite à nous appeler 0826 300 300, on en parle en fait dans un instant. Et avant cela, tout de même avec vous Frédéric Dabi, pour conclure par rapport en fait aux études, est-ce que il reste 3 semaines, il y a un écart qui est quand même assez considérable hein, entre Emmanuel Macron 30 à peu près, et ses poursuivants Marine Le Pen qui 17, est à 18, 17, 18, ouais. 18 etc. dans le rolling, et ensuite c'est 12-13 pour les autres, entre 11 et 13-14. Est-ce que à 3 semaines ça peut encore changer beaucoup, évoluer? Alors, ou pas, ou,
bien sûr,
avec votre expérience,
prudence, bien sûr, prudence absolue. Rien n'est joué, on est dans une campagne quand même complètement inédite, un quinquennat de crise qui a souvent rebalayé les cartes. Maintenant, 12 points d'avance pour le président sortant, on ne l'avait pas vu depuis François Mitterrand en 1988, et c'est vrai qu'au-delà d'un événement qui pourrait se passer, la tonalité de la campagne qui reste sur cette logique de continuité. Est-ce qu'on change de capitaine au milieu d'une crise très anxiogène pour les Français, hein. 92% il y a 15 jours dans un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, une balise sur la crise ukrainienne. Tout ça incite à être dans cette logique de continuité. Mais l'abstention pourrait être très forte parce que les Français considéreront qu'il n'y a pas de débat. Sans doute, et c'est un drame, le record du 21 avril 2002, les 28%, je ne vois pas comment il n'est pas battu. De l'autre, on peut faire payer à Emmanuel Macron des questions de politique intérieure, la question du pouvoir d'achat. D'ailleurs, hier, c'était drôle, il a peut-être pas beaucoup parlé d'insécurité et d'immigration, il a été son propre opposant ou son propre procureur sur les questions de santé et les questions d'éducation. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir, l'autocritique. Mais ça peut être un moment où, si la crise ukrainienne, ça serait un truc que l'on pourrait souhaiter, baisse en termes d'intensité, le retour des sujets de préoccupation intérieure pourrait lui être préjudiciable, même si, sincèrement, l'avance est très nette et surtout, il a un socle électoral solidifié et des catégories de soutien qui votent plus que la moyenne.
Bon, est-ce que ça peut encore changer? 0826 300 300, on se retrouve dans un instant.
Oui, et puis vous laissez vos commentaires, hein, bien sûr, sur notre compte Twitter, Sud Radio, 9h18.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia.
Et avant de retrouver nos grands débats du matin, on va noter qu'à partir de 9h30 dans La Vérité en Face, alors qu'aujourd'hui c'est le 60e anniversaire des accords d'Évian entre la France et l'Algérie, faut-il commémorer les accords d'Évian qui font toujours autant polémique? On en débattra notamment avec les journalistes historiens Henri-Christian Giraud et Jean Sévillia.
Oui, qui sera notre invité donc tout à l'heure, et puis vous aussi, vos réactions. Vos réactions, comme d'ailleurs la suite du débat hein, qu'on évoquait tout à l'heure avec c'était Pierre qui était avec nous, et il y a un autre auditeur hein, qui veut réagir aussi d'ailleurs sur ce sujet en fait des retraites. Il y a un petit souci. Il devait se stationner en fait sur le bas-côté de la route pour tout vous dire. Peut-être une petite difficulté tout de même. Philippe Bilger, vous vouliez ajouter une petite précision hein.
Oui, parce que j'ai écouté, comme toujours, avec beaucoup d'attention, Frédéric Dabi. Oui. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier peut-être que les intentions de vote très élevées d'Emmanuel Macron au premier tour se justifient peut-être par le fait que, en quelque sorte, il intègre déjà implicitement tout ce que le deuxième tour pourrait lui apporter. Et donc, je ne serais pas désespéré par l'écart très net aujourd'hui entre Emmanuel Macron et ceux qui le suivent. Ça ne veut pas dire, me semble-t-il, et d'ailleurs Frédéric Dabi n'a pas dit le contraire, que tout est plié.
Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas. Non, mais bien, vous avez raison. Hein. Vous sentez que les choses peuvent bouger, vous, Éric Revel?
Bon, il faut être.
Allez, franchement, Éric. Hein.
Je vous dis. Mais vous vous souvenez peut-être, moi, je l'ai en tête, ce sondage, parce qu'on l'a revu récemment. Vous savez, le face-à-face Chirac-Jospin. Ouais. Alors, de mémoire, Chirac, pour le premier tour, était crédité par les instituts de sondage de 24 points. Jospin de 22, Jean-Pierre Chevènement de mémoire de 12 ou de 13, et Jean-Marie Le Pen de 8, et sa dynamique était donnée en baisse à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé au second tour? C'est Chirac qui a affronté Le Pen. Donc ça n'a pas été ni Jospin, ni Chevènement qui étaient beaucoup plus haut dans les sondages. Donc très grande prudence. Maintenant, sur la réélection d'Emmanuel Macron, bon, bah, une majorité de Français semble le souhaiter, si on en croit les sondages. Mais la vraie nouveauté, pour moi, c'est dans le fait qu'il y ait deux candidats de droite nationale, Marine Le Pen et Zemmour, qui soient sur la ligne de départ. Ça constitue pour l'un ou pour l'autre un réservoir de voix que dans aucune autre élection présidentielle jusqu'à présent, la candidate, que ce soit le père ou la fille, n'avait. Quand c'était Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, il n'avait pas de réservoir de voix. Aujourd'hui, il y a deux candidats de droite nationale, bon, certains appellent extrêmes, mais en tout cas, ça propose, ça constitue un réservoir de voix, me semble-t-il. Donc je rejoins un peu l'analyse de Philippe Bilger, c'est-à-dire que, bon, le premier tour, peut-être que Macron va faire, dès le premier tour, le plein des voix qu'il est capable de faire, et puis on verra ce qui se passe au second. D'ailleurs, ce qui serait peut-être intéressant dans les sondages, c'est qu'on voit, en testant des possibilités, en fonction des candidats, quels sont les reports de voix pour Emmanuel Macron sur un second tour, pour Marine Le Pen sur un second tour, pour Jean-Luc Mélenchon qui bénéficie d'une dynamique en ce moment sur un second tour. Ce serait intéressant de voir comment les Français voteraient un second tour en fonction des candidats qui y seraient.
Je suis assez d'accord avec Philippe et avec Eric. Il y a deux risques pour Emmanuel Macron. Au premier tour, que l'on continue à dire que c'est fait et qu'il aura un très gros score et que ça démobilise une partie de ses électeurs. Et au second tour, alors que Marine Le Pen n'incarne plus le repoussoir qu'elle a été jusque-là, c'est différent aujourd'hui, elle a réussi à lisser son image et au fond Éric Zemmour à cet égard lui a rendu service, eh bien qu'il y ait une coalition des anti-Macron, même de gauche, même d'extrême-gauche, qui aille voter volontairement sur Marine Le Pen pour provoquer une situation, en tout cas pour la faire élire, plutôt le faire battre lui.
Oui, c'est 826-300-300.
Oui, on nous appelle à Sud Radio et c'est Thierry qui nous appelle de Bagne. Bonjour Thierry.
Bonjour Thierry.
Bonjour, je vous remercie de prendre ma communication.
Oui.
Je voulais juste préciser quelque chose que je trouve assez démagogique dans le discours de M. Macron et profondément injuste, à savoir qu'il va parler de rallonger l'âge de la retraite jusqu'à 64 ou 65 ans, sans parler des régimes spéciaux où certaines catégories de Français continueront à partir à 55. Ça crée toujours cette même dissociation entre les dates de départ de certains et un fossé qui se creuse, parce que ne pas parler de ça, c'est carrément éviter le problème des régimes spéciaux et c'est pas normal.
Oui,
c'est
non, mais je pense que Thierry Guerrier voulait y ajouter quelque chose.
Thierry qui va contredire le Thierry.
Thierry,
non, juste une précision.
Oui.
Emmanuel Macron en a parlé hier des régimes spéciaux.
Oui,
il a rappelé qu'il avait modifié celui de la SNCF. C'est fini. Quand on entre aujourd'hui avec le statut à la SNCF de cheminot, eh bien, on ne bénéficie plus de ce régime spécial. Et il a l'intention de les modifier pour que justement ceux pour qu'on sorte de situations qui sont l'héritage
sociale
qu'il y a d'il y a 50 ans.
Et alors Thierry, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir être sérieux, quoi. Soit effectivement,
il
recule. Oh, non mais il le fait aussi en fait pour les gens qui sont en fonction en fait aujourd'hui, puisqu'il va le faire en fait pour les gens qui ont aujourd'hui plus de 55 ans aussi, qui ne pourront pas partir à la retraite en fait à 62 ans. Donc il faut qu'il fasse pour tout le monde. À un moment donné, il faut être clair, il faut pas jouer avec les mots, et il joue en fait avec les mots sur les régimes spéciaux. Donc soit il va jusqu'au bout, soit il n'y va pas. Bon, mais après, c'est à vous de choisir et de voter, bien sûr, pour Emmanuel Macron ou pour d'autres candidats. En tout cas, regardez bien les programmes, tout de même. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, de regarder, en fait, les programmes, de comparer, de voir, parce que bien souvent, il y a l'incarnation aussi par une personnalité, mais il y a ce qu'il y a derrière, dans les contenus, et ça, c'est particulièrement important. Par exemple, ce matin, on a décrypté tout ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Pas tout. Non, j'exagère. Pas tout. Mais beaucoup de choses,
santé,
en fait.
Pad.
Et on s'est aperçu que tout ça existait déjà, plus ou moins, que ce n'était pas mis en application ou que ça ne correspondait pas, en fait, aux attentes. Donc, il faut regarder, parce que derrière les paroles et les beaux discours, il y a aussi la réalité des choses. Merci. En tout cas,
c'était Éric la carte blanche de Patrick Roger.
Non, mais tous les jours, je vous apporte.
Ah, d'accord.
Je suis neutre, mais simplement, je vous dis, en fait, bien sûr, quand même de tout regarder, quoi, avec attention.
Bien compris.
Parce que c'est particulièrement en fait important. Merci Philippe Bilger, Éric Revel, Thierry Guerrier. Verrier et vous, Thierry, Pierre et tous les autres auditeurs. Dans un instant, souvenez-vous, on va parler en fait de ça. Écoutez bien, écoutez bien. Ah ben bah, voilà, sauf
c'était
que John,
le général de Gaulle
sauf que John, il ne suit plus, oui.
Voilà.
Le 18 mars 1962, les accords sont signés. Sept ans de guerre se terminent par une seule possibilité, l'avènement d'une Algérie souveraine et indépendante.
Le cessez-le-feu entrera en vigueur demain à partir de 12h.
C'était il y a 60 ans, faut-il ou pas commémorer les accords d'Évian? On en débat tout à l'heure avec les journalistes historiens Henri-Christian Giraud, Jean Sévilla. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à réagir au 0826 300 300 Sud Radio, il est presque 9h30.